Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, on a vu un message. Vous vous souvenez, les enfants, de qui j'avais parlé l'année passée? Ça vous dit quelque chose? C'était Nouveau Testament. Jésus, il partage le pain, les poissons pour nourrir 5000 personnes. Et puis après, il y a Pierre qui va marcher sur l'eau pour le rejoindre. Peut-être que vous vous souvenez, c'était un message qui était vraiment dirigé pour les enfants avec beaucoup d'images. Et puis cette fois-ci, j'ai un message qui est plus dirigé pour les jeunes, mais aussi pour les enfants. Il y aura aussi des images et il faudra bien écouter pour pouvoir suivre ce qui va être dit. D'accord? Alors, ce matin, on va effectivement parler d'un homme qui nous a accompagnés chaque jour de camp l'année passée, et c'était le prophète Daniel. L'histoire de Daniel, un homme exemplaire pour son courage, sa droiture, son amour pour Dieu et pour sa fidélité. Excellent. Alors, voilà. Ça marche? C'est parfait, merci beaucoup. Alors pour changer un petit peu, je propose ce matin un petit peu d'interactivité pour pas être tout seul à parler, et comme ça sera l'occasion de tester un petit peu vos connaissances avec quelques questions. Bien sûr, tout le monde a le droit d'y répondre. Attention, les enfants sont toujours rapides. Mais avant, il nous faut poser le contexte et on va commencer avec un petit peu d'histoire. La première question qui apparaît, en fait, elle n'est pas pour nous. C'est une question que devaient se poser les gens à l'époque, les habitants d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un empire? Ah ben, quelle drôle de question, hein. Nous sommes ici dans une sale période pour Israël. Fini les conquêtes, fini les victoires, fini les gloires. Dieu ne conduit plus son peuple à la réussite. Car celui-ci s'est rebellé contre Dieu. En fait, au lieu d'aimer son Dieu qui lui a fait tant de grâce, qui lui a fait tant de faveurs, et au lieu de l'écouter, eh bien le peuple a décidé de le rejeter, et même d'adorer de faux dieux, ce qui était une bien mauvaise idée. Nous sommes ici en 722 avant Jésus-Christ. Le royaume de Samarie, c'est-à-dire les 10 tribus du nord d'Israël, tombe sous un terrible fléau redoutable et cruel. L'empire attaque. Il s'agit ici d'un empire bien connu de l'époque, qui est l'empire des Assyriens. Bravo, des Assyriens. Effectivement. Et voici une petite carte. L'empire est immense. Il s'étend de l'Égypte jusqu'en Perse. C'est ainsi que les 10 tribus du nord d'Israël en font les frais, avec une invasion et une terrible déportation des Israélites. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur cette opération. Je lis toutefois en 2 Rois 17:6, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak, sur le Cabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait pourtant monter du pays d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Au sud d'Israël, il ne reste plus que 2 tribus. Lesquelles? Juda et Benjamin. Juda et Benjamin, qui forment ensemble le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale. Oh, ils ne font pas les malins, hein. Oui, ils ont peur et ils doivent accepter la suzeraineté de l'Assyrie. 100 ans plus tard, vers -630, sous le règne de Josias, Juda reprend une certaine indépendance. Mais malheureusement, un nouvel empire monte en force, plus puissant et plus fort que celui de l'Assyrie. Qui était ce deuxième empire? Lequel? Effectivement, l'empire de Babylone. Que voici? Waouh! On change de couleur. Mais franchement, entre ces deux empires, on ne saurait dire lequel était le pire. Nous sommes maintenant vers -600. À Jérusalem, personne n'est tranquille. La tension monte. Il faut dire que les Babyloniens ne sont pas des tendres. Et on a justement entendu dire qu'ils étaient dans la région. Waouh! Alors un jour, ou peut-être une nuit, on voit depuis les remparts de Jérusalem une scène d'épouvante. Des troupes armées arrivent. Allons-y, soldats! On avance. Une immense armée de milliers de soldats s'approche pour assiéger la ville de Jérusalem. On peut imaginer la scène. C'est la panique. Le roi qui menait cette armée était méchant, cruel, sans pitié. Il s'appelait comment ? Nebuchadnezzar. Vous savez ça, les enfants, hein ? Si vous voulez rajouter une syllabe, vous pouvez dire Nebuchadnezzar. Mais bon, Nebuchadnezzar, c'est déjà pas mal. Et puis, la Bible, elle décrit cette situation en 2 Rois 24:10-14 comme ceci. Écoutez bien. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Et puis, il emmena, verset 14, en captif tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers, les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Quand on lit ceci, quand on réalise la situation, eh bien on est bien content de n'avoir jamais vécu pareil sort. Combien de captifs ? 10 000, exact, pour les amener où ? À Babylone. Et on peut imaginer, estimer la distance à 1200 kilomètres. 1200 kilomètres pour donner une idée. C'est en ligne droite, on va dire, depuis ici jusqu'au Portugal. Sauf que, il n'y avait pas EasyJet. Il y avait 2 pieds par personne pour faire toute cette distance qui devait correspondre à 2 mois de marche, peut-être. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela pour son peuple ? Pourquoi ? Est-ce que Dieu, finalement, aurait lui-même perdu la bataille contre le roi le plus puissant de l'époque ? Non. Il s'agit ici d'un jugement de Dieu, tout comme pour le Nord. Le problème était le même. Le peuple s'est aussi détourné de Dieu. Il l'a rejeté et a préféré se tourner vers d'autres dieux. Dans cette atmosphère nauséabonde, plusieurs prophètes ont essayé d'avertir les rois, les responsables de Juda. « Ne faites pas ça ! Repentez-vous !» Mais malheureusement, sans succès. Et c'est ainsi que Dieu, dans sa souveraineté, a suscité des autres rois, des rois étrangers, pour juger son peuple méchant et rebelle. Dans les prisonniers se trouvait un jeune homme qui ne méritait pas tout cela. Il n'avait pas rejeté Dieu, lui, il était resté fidèle. Les enfants, il s'agit de qui ? De Daniel, exactement. Il était jeune. Vous savez qu'à l'époque, on pense qu'il avait 15-16 ans. À peu près votre âge, hein ? C'est intéressant que même s'il faisait partie d'un reste de personnes restées fidèles à Dieu, il subissait le même sort que les autres. Aussi, dans son malheur, il s'est peut-être posé la question, mais pourquoi moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et où est la justice de Dieu ? Cela ne vous est jamais arrivé de vous sentir abandonné de Dieu ? D'être puni de Dieu ? Vous avez des soucis, vous avez des difficultés, vous demandez de l'aide à Dieu, vous priez, et puis il ne répond pas. Ne serait-ce finalement pas le Dieu que je croyais ? Me suis-je trompé sur sa personne, sur sa fidélité, voire sur ses capacités ? Le problème, c'est que notre vision, elle est très limitée. Dieu, lui, voit loin, il voit large, il voit jusque dans le temps, mais nous, nous sommes cloisonnés dans notre espace-temps. Alors pour illustrer cela, ah ça c'était la distance, pour illustrer cela, voici une photo que j'ai prise une fois, alors que j'étais encore jeune et sportif, sur le Moucherot au-dessus de Grenoble. Et même si cette photo casse pas des briques au niveau de la qualité, elle est intéressante parce que elle montre que depuis ce point de vue en altitude, on ne voit pas la même chose qu'en bas. Nous, nous sommes dans les vallées. Nous ne voyons que ce qui est devant nous au moment présent. Mais Dieu, lui, il est au-dessus. Il est souverain. Il a une vue d'ensemble de nos vies. Il voit le présent, le futur et même la fin de toutes choses. C'est incroyable. Il voit au travers du brouillard, à travers des montagnes, jusqu'à l'infini. Ainsi, si nous traversons des épreuves, il est trop tôt pour dire que Dieu nous a abandonnés. Parce qu'en fait, il est bel et bien là. Il est présent, il nous voit. Il se permet de nous faire passer par des épreuves, de nous faire patienter dans notre misère, sans nous abandonner pour autant. Mais il nous demande une chose, de tenir ferme, de rester avec lui, dans la prière, dans la parole, et de croire en lui. Encourageons-nous. Encourageons-nous. Eh bien, dans sa situation, Daniel, lui, il aurait pu baisser les bras. Il aurait pu perdre sa foi et finalement se rebeller lui-même contre Dieu en disant, si c'est comme ça, alors non, ça vaut pas la peine. Cependant, le jeune homme reste fidèle. C'est impressionnant. Et nous allons voir comment. Daniel, un homme fidèle malgré tout. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire dans Daniel, chapitre 1, versets 1 à 7 pour commencer. Prophète Daniel, dans les livres des grands prophètes, après Ézéchiel, chapitre 1, versets 1 à 7. Écoutez bien, je lis. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livrera entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. De jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui on l'enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, durant lesquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Et je vois même des enfants qui lisent avec nous, c'est super. Voilà, jusqu'au verset 7 pour l'instant. Quelque temps plus tard à Babylone, voilà que le roi Nebuchadnezzar veut intelligemment profiter de son butin. Et puis, oui, parce qu'il savait que dans les prisonniers, il y avait des hommes, des jeunes gens capables et de qualité qui pourront le servir lui-même dans le palais du roi. Il faudra les former, leur apprendre la langue du pays, les coutumes, et c'est Aspenas, le chef du personnel, qui les sélectionnera et puis qui s'en occupera. Et parmi tous ces jeunes gens, qui est-ce qu'on retrouve? Daniel. Et puis ses 3 amis. Qui était là avec eux? Tu te souviens? Anania, Michaël et Azaria. Alors bien sûr, pour entrer dans le bain, eh bien nos 4 amis reçoivent de nouveaux prénoms babyloniens. Est-ce que vous vous souvenez des prénoms babyloniens qu'ils ont reçus? Shadrach, Meshach et Abednego. Et puis pour Daniel, c'est un peu plus compliqué. Belshazzar, bravo, excellent. Et voilà qu'on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous ces jeunes prisonniers, ils vont recevoir chaque jour une portion des mets du roi et du vin du roi, comme si cela faisait partie de la formation. Ah, voyons voir ça. Quelle aubaine pour tous ces jeunes qui n'auront plus à manger la nourriture des prisonniers. Cependant, dites-moi, est-ce que vous croyez que Daniel était content, lui? Pas trop, hein? Apparemment pas, parce que cette nourriture était pour lui un problème compromettant. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc on va lire la suite de l'histoire pour comprendre pourquoi Daniel, il n'était pas si content que ça. Et nous prenons depuis le verset 8 jusqu'au verset 14. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Verset 11, « Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et de Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et il leur accorda donc ce qu'il leur demandait, ce qu'il demandait, et les éprouva pendant 10 jours. Waouh ! Peut-on se souiller avec de la nourriture, comme nous venons de le lire ? Aujourd'hui, on ne dirait pas ça, surtout dans notre monde où le péché n'a plus de signification et où le respect de Dieu n'existe plus. Et la Bible, elle parle de souillure dans certains, pour certains péchés, notamment dans le domaine de l'adultère, le domaine spirituel, l'adoration de faux dieux, l'évocation des esprits, mais finalement aussi avec toutes sortes de péchés qui salissent le cœur de l'homme face à la sainteté de Dieu. Dans le contexte de Daniel, il faut savoir que les viandes offertes du palais pouvaient être impures pour les Juifs, ayant été offertes préalablement en sacrifice aux idoles et aux faux dieux. Du coup, en mangeant de ces viandes, Daniel risquait de s'associer à ces pratiques idolâtres et de devenir lui-même coupable envers Dieu. Mais c'est pas ce qu'il voulait. Daniel, lui, il voulait respecter la loi de son Dieu en lui restant fidèle, lui et ses 3 compagnons. Mais en tant que captif, est-ce que ses amis étaient en position de force pour refuser l'ordre du roi? Ils pouvaient tous les 4 être instantanément mis à mort. C'était très dangereux. Mais pour Daniel, pas de compromis. Il veut rester fidèle à son Dieu à tout prix. Ce qui est également intéressant, c'est que les autres jeunes, bien sûr, ils profitent à fond de la situation. Ils ne se privent pas. Ah, ces plats succulents, cette odeur de viande bien grillée, qu'est-ce que ça devait faire envie à Daniel et à ses amis. Devant ce refus étrange et anormal, on peut aussi imaginer que les autres devaient les narguer, devaient faire pression et se moquer d'eux. Car nos amis se contentaient de légumes et d'eau, alors que les autres mangeaient gracieusement les bons plats du roi. Mais qu'est-ce qui vous prend de refuser un tel festin avec vos légumes misérables? Or, ce qui est important pour Daniel, ce ne sont pas ce que font les autres, ce que disent ou pensent les autres. Ce qui était important, c'était sa relation personnelle avec Dieu. Et c'est ainsi qu'il choisit le plus aberrant aux yeux des hommes, mais le plus précieux aux yeux de Dieu. Sommes-nous prêts à en faire autant? Vous qui êtes jeunes et qui êtes confrontés et que vous connaissez ce combat journalier de la comparaison, du regard, de se sentir obligé de faire comme les autres, ô combien c'est difficile de dire non. Je pense que nous avons déjà été tous confrontés à ce dilemme. La pression des copains, le regard des autres, les médisances derrière le dos, les moqueries, l'incompréhension. Mais tout cela, en plus, avec le risque de se laisser embarquer dans des choses mauvaises. Jusque où sommes-nous capables de rester fidèles à Dieu? Savons-nous devant les autres dire non et prendre position pour Dieu? Où sommes-nous tentés de faire des compromis, que nous soyons jeunes ou moins jeunes? J'aime bien l'exemple de Daniel, parce que pour rester ferme, il a su s'entourer d'amis, de vrais, qui avaient la même foi que lui, pour avancer dans la même direction. Et je crois que pour nous aider à rester fidèles à Dieu, il est bon de choisir nos amis, ceux qui ont la même conviction que nous. Et c'est une raison de l'importance de se retrouver entre chrétiens, dans un groupe de jeunes. Une raison de venir à l'église, une raison aussi de faire des camps pour se retrouver entre copains dans un cadre qui nous apprend à honorer Dieu. Je vous propose un autre exemple qui ressemble un petit peu à celui de Daniel, c'est quand même différent, et un exemple qui est plutôt pour les adultes, parce que c'est un exemple au travail, une situation compromettante. C'est l'occasion de grader. Ah, on me propose un poste intéressant dans lequel je gagnerais bien plus, et c'est justement pour cela que je priais. Et en plus, ça correspond parfaitement aux besoins de ma famille. Génial, extraordinaire. C'est sans doute une réponse de Dieu à mes prières. Et pourtant, il y a un détail qui me dérange un peu. Bien sûr, ce n'est qu'un détail, mais tout de même. Et ben voilà, dans ce nouveau poste, pour mener à bien mon travail, eh bien je comprends finalement que je serai amené de temps en temps à tromper un peu les clients, à tricher un poil, à mentir, même si c'est minime. Bon, bien sûr, mes supérieurs n'appellent pas cela de la malhonnêteté, mais pourtant, c'en est. Alors face à l'enjeu faramineux, vais-je baisser les yeux? Vais-je accepter le compromis? Est-ce que ma fidélité pour mes supérieurs vaudrait finalement plus que celle pour mon Dieu? Est-ce que ce poste est finalement une vraie bénédiction ou une fausse? Ainsi, en toute situation, notamment si je ressens une sorte de compromis, je crois qu'il est utile de se poser ce genre de questions. Pour Daniel, le compromis n'existait pas. La seule voie qu'il suivait, son objectif, sa priorité, c'était de rester fidèle à Dieu. Alors, malgré les risques, malgré la pression, a-t-il choisi la bonne solution? Bien, c'est ce que nous allons voir et nous allons continuer. Un Dieu fidèle malgré tout, et nous allons terminer ce passage du verset 15 au verset 21. Au bout de 10 jours, écoutez bien la suite de l'histoire, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Excusez-moi. Au terme, verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on les amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Comme on le voit ici, si je suis fidèle à Dieu, si j'honore Dieu dans ma vie, si je lui fais de lui une priorité et si je lui fais confiance, alors je peux avoir l'assurance qu'il me sera fidèle réciproquement et croire entièrement à ses promesses. Car les promesses de Dieu sont pour ceux qui lui obéissent et pour ceux qui placent leur confiance en lui. Et c'est ce que dit un verset qui nous a interpellés l'été passé au camp. Vous avez peut-être entendu la bonne température du chrétien, le psaume 37,5, que vous connaissez aussi. Qui le connaît? Est-ce que on le récite ensemble, ce psaume 37,5? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Simple, non? Eh bien, pour que cette promesse soit mise en œuvre, je pense qu'il faut vraiment y croire, la rechercher, l'expérimenter et apprendre à faire entièrement confiance en Dieu. Alors pour terminer, il est juste peut-être de dire aussi, de rajouter, que ce n'est pas parce que Dieu est fidèle que tout va bien, qu'il n'y a jamais de combat dans nos vies. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile de la prospérité. D'ailleurs, on le voit très bien avec le livre de Daniel, si on lit la suite, qui est truffé de difficultés et d'épreuves. Tout est loin d'être rose et facile. La vie, elle est remplie d'épreuves que nous ne comprenons pas, mais que Dieu permet pour notre croissance spirituelle. Dieu les voit, Dieu les connaît, et il sait aussi ce que nous sommes capables de supporter. Il voit bien au-delà, et jamais il nous oubliera. Et bien que le Seigneur soit un encouragement pour chacun de vous, de nous, ici présents, et qu'il vous bénisse. Et puis, je me suis dit, pour terminer, vu que connaissez ce chant, de « Recommande ton sort à l'Éternel », eh bien, je me suis dit, on pourrait, j'ai les paroles, le chanter, et puis on va même me prêter une guitare. Ça vous dit? On rechante ce chant un coup?
Oui. Super. Merci. Merci beaucoup.
Alors, vous vous souvenez comment ça fonctionne, les enfants? On l'avait fait l'année passée.